France Culture.
h13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Une nuit sur une plage, une mer surmenée. Pour leur première collaboration, Pénélope Bagieu et Lola Lafont racontent une rencontre jamais oubliée. C'est la nuit retrouvée et elles sont mes invitées à partir de 13h. Mais d'abord, je sais que vous attendez ce moment religieusement. La critique des midis, aujourd'hui deux expositions. Jacques-Louis David au musée du Louvre et Berthe Veil, galeriste d'avant-garde. C'est au musée de l'Orangerie à Paris donc. Vous écoutez les midis de culture et c'est bien normal. Et je vous présente les critiques du jour. Sally Bonne, maître de conférence en esthétique à l'université Picardie. Jules Verne, auteur, critique d'art et commissaire d'exposition. Bonjour.
Bonjour Marie.
Stéphane Coréard, le retour, éditorialiste au Journal des Arts. Bonjour.
Bonjour Marie.
Et bienvenue à tous les deux. Quelques notes du compositeur Gossec qui travailla avec lui pendant la Révolution pour introduire notre débat sur l'exposition consacrée à Jacques-Louis David. Pour célébrer le bicentenaire de sa mort, le musée du Louvre rassemble une centaine d'œuvres de l'artiste, dont les plus célèbres évidemment, un fragment du Serment du Jeu de Paume, Marat assassiné ou encore Bonaparte franchissant les Alpes. Le sacre, lui, me demanderez-vous, eh bien, il est beaucoup trop grand, donc pour être déplacé, il est visible dans les collections permanentes à l'étage au Louvre. Mais à côté de ces toiles presque écrasantes, l'exposition propose aussi de nombreux portraits signés de l'artiste. Elle permet également de suivre son évolution politique, sinueuse, puisqu'après avoir été peintre de l'Ancien Régime, il a voté la mort du roi en 1793 avant de devenir un fidèle de Napoléon Bonaparte et de choisir l'exil en Belgique au retour de la royauté. On commence par un avis rapide en quelques mots d'abord, Stéphane Correa.
Oui, alors pas de sous-titre, je crois, à cette exposition. Hein. 35 ans après la dernière rétrospective David, qui était noyée dans les célébrations du bicentenaire de la Révolution, effectivement, celle-ci s'annonce comme la rétrospective d'un monument, on nous dit le père de la peinture française. Mais attention, on nous prévient aussi qu'il faut oublier l'image de néoclassique qui lui colle à la peau, et le voir comme un peintre engagé, pleinement de son temps. Hein. Dès qu'on entre, effectivement, le premier texte de salle, c'est « peindre, c'est agir ». Or, ce qui ressort de la visite, selon moi, c'est exactement l'inverse. Rien ne m'a semblé prouver que David s'impose comme un artiste pour notre temps, comme c'est aussi la prétention de cette exposition, à moins que ce mélange un peu cynique d'académisme et d'opportunisme qu'il incarne nous offre une grille de lecture pour un certain art d'aujourd'hui.
Intéressant, Sally Bonne.
Oui, c'est quand même un étonnant et étrange personnage que David, dont l'œuvre, vous l'avez dit, Marie, parcourt les remous intenses de l'histoire de cette période tumultueuse marquée par la chute de la monarchie, la Révolution, l'Empire, la Restauration. Et le peintre tient, en adaptant son œuvre à l'envi, en créant un style épuré, dit néoclassique, sur lequel on reviendra. Mais c'est un artiste profondément engagé dans son temps, au sens où il colle à une actualité, ce qui rend son œuvre et lui aussi sans doute profondément ambigu, problématique, mais aussi assez captivant.
Alors, Stéphane Correa, je suis obligé de revenir sur ce que vous venez de dire quand même, c'est-à-dire que pour vous, c'est une lecture, la lecture que nous propose David, ça nous permet d'éclairer l'art de notre temps aujourd'hui.
Bah, si vous voulez, David, c'est Buren. Hein, Daniel Buren a déclaré cette semaine dans le Figaro que le projet de vitraux pour Notre-Dame de Claire Tabouret était grotesque, a tombé par terre, et qu'il faudrait conserver ce Viollet-le-Duc qui sont magnifiques, nous dit-il, mais en même temps il reconnaît qu'il a lui-même été candidat pour faire des nouveaux vitraux, mais il aurait pas dû, c'est parce qu'on l'y a poussé. Voilà, donc en fait, David et l'Académie, c'est un peu pareil. Il se présente quatre fois.
À l'Académie royale,
absolument. Il échoue, il finit par en être lauréat. Mais ensuite, il n'a de cesse, pendant la Révolution, que de vouloir la supprimer. Et puis, quand il est en exil à Bruxelles, il fait tout pour y envoyer ses tableaux.
Donc, l'opportunisme dont vous parlez.
Voilà, il est toujours du côté des gagnants. Hein. C'est un peu le sparadrap du capitaine Haddock ou, je sais pas, au Bernard-Henri Lévy. C'est-à-dire qu'on a vraiment du mal à s'en débarrasser une fois que... qui vous colle. C'est vrai, effectivement, pour ses engagements, vous l'avez dit, Marie, puisque c'est le peintre qui a servi le plus de régimes différents, mais il en est, même pour sa peinture d'histoire, par exemple, il a quand même un grand sens du timing, puisque quand la Révolution arrive, il est en train de travailler à sa version de Brutus. Hein, les licteurs rapportent à Brutus les corps de ses fils, donc ça tombe bien, parce que c'est un thème qui n'avait pas été choisi pour ça, mais ça peut très bien s'adapter à cette période révolutionnaire. Néanmoins, il adapte. Hein. Il y a des, par exemple, dans l'esquisse du tableau qu'on voit, il y avait des têtes au bout de pique. Là, comme il y a eu quand même les excès de la prise de la Bastille, il les enlève pour pas qu'on puisse croire que c'était une dénonciation de la Révolution. Et puis après, 10 ans plus tard, en 1799, il livre avec les Sabines une très opportune, mais un peu tardive, ode à la réconciliation nationale. Hein. Et entre-temps, effectivement, il y a le serment du jeu de paume, dont on voit ici des esquisses, et puis le tableau inachevé. Et puis finalement, il ne le fera jamais, parce qu'il n'arrive pas à suivre le rythme de l'épuration. Et les députés, étant les uns après les autres, supprimés de la photo officielle, entre guillemets, bah, son tableau devient sans objet. Mais il est plutôt victime de ces aléas qu'il ne les devance.
Alors, Sally Bonne, on peut peut-être parler de la pâte.
Oui, alors par exemple, Stéphane en parlait à l'instant, le serment du jeu de paume, dont on a une esquisse dessinée en petit format qui laisse imaginer ce qu'aurait été la toile si David avait pu l'achever. Une toile qui était prévue pour faire 6 sur 10 mètres de large et de long, donc absolument immense, monumentale, puisque c'est vraiment un peintre de la monumentalité. Monumentalité à la fois historique dans son rapport à l'antique, par exemple, à la romanité ou au retour à la Grèce à la fin, monumental aussi dans les formats de ses toiles, et puis monumental aussi dans ce qu'il cherche à représenter, une forme d'héroïsme, héroïsme viril pour une partie de l'œuvre, puis un héroïsme plus teinté, on va dire, de sensibilité, puisque il donne, semble-t-il, une importance à la présence, à la fois à la présence et à l'importance des femmes dans l'histoire, et notamment des scènes représentées. Donc, ce serment du jeu de paume, dans sa monumentalité, il nous en reste un fragment, mais qui est quand même immense, mais un fragment inachevé. Donc, on a les corps des membres du tiers-État qui étaient en train de prêter serment pour aboutir à une constitution de la France. Et il peint, en fait, ce qui est assez... Ce tableau est absolument fascinant, qui n'est pas vraiment un tableau puisqu'il n'est pas fini. Mais on a les visages de certains des membres du tiers-État qui sont finis, enfin... peint en couleur, et puis ces têtes-là, ce qui d'ailleurs résonne avec l'histoire de la Révolution de manière assez étonnante, ces têtes-là sont posées sur des corps qui sont, eux, tracés extrêmement précisément, des corps nus. Et donc on a un ensemble de corps nus qui sont dans des poses, debout, assis, ils ont des mouvements comme ça, et en fait ce qui est assez... on voit là le travail à l'œuvre de David, c'est-à-dire qu'il dessine l'intégralité des corps avec, on voit les muscles, on voit les jambes, on voit vraiment tout la précision de tous les éléments et de tous les membres du corps qui vont ensuite être recouverts de vêtements. Et donc là, on est quand même absolument fasciné à imaginer cette toile qui aurait fait 6 mètres sur 10 de ces corps qui sont d'abord nus et qui vont être recouverts de vêtements. Donc là, on a ce tableau en suspens qui est absolument incroyable. Et dans un donc on est là au cœur vraiment du travail dans ce moment qui est celui de la période de la Révolution puis de la Terreur, qui est vraiment le c'est une exposition qui est assez intéressante dans sa chronologie. Enfin, dans sa constitution, parce qu'elle est extrêmement chronologique, très très classique aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on a les premiers tableaux, le moment de la Terreur, un peu resserré peut-être, et puis la grandiloquence de la période napoléonienne. Mais ce tableau-là, il me semble très intéressant parce qu'il est vraiment à l'intersection.
Au cœur de la fabrication, voilà, et à l'intersection. Exactement. Stéphane Correard.
Oui, mais justement, c'est les tableaux achevés de David, je dirais, qui nous achèvent aussi. C'est-à-dire que ils sont quand même extrêmement léchés, statiques. On lui reproche d'ailleurs au début ses attitudes trop théâtrales. Il se passe trop de choses partout. Les compositions, à de rares exceptions près, sont finalement très centrales. C'est soit un portrait de quelqu'un qui est seul, qui se détache sur un fond, ou même les grandes compositions comme le serment du jeu de paume sont toujours faites pareil. C'est-à-dire qu'il y a un personnage central qui est exactement au centre de la peinture, et puis ensuite ça s'éclate comme ça, comme une explosion un peu fixe. Et donc très souvent, ce qui est le plus touchant dans sa peinture, en fait, c'est, d'après ce qu'on comprend de l'exposition, des toiles inachevées, par exemple. Il y a plusieurs portraits qui se détachent comme ça sur des fonds monochromes brossés avec énergie, et ça donne quelque chose qui peut être magnifique, comme dans le fascinant portrait de Marie-Louise Joseph Truden, qui est sur un fond rouge, et du coup le rapport entre la figure et le fond est extrêmement puissant, mais c'est parce que ce serait inachevé. De la même manière, il y a la mort du jeune Bara, qui est également inachevé, avec le même sentiment un petit peu de ce fond tremblotant, qui est mis de manière très convaincante dans l'exposition en parallèle avec un tableau d'un de ses élèves, Giraudet, qui est le sommeil d'Endymion. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a d'un côté un martyr de la Révolution, qui est Bara, 13 ans, qui est assassiné, dépouillé de ses vêtements, etc. Et au contraire, un jeune berger qui frappe une déesse par sa beauté. Et en fait, c'est le même personnage, quasiment. Et donc, c'est la même pose lascive, c'est la même tête perdue dans un ailleurs. Et en fait, il n'y a aucun tragique dans ce tableau. Il y a au contraire quelque chose de très homo-érotique, qui est quelque chose qui a été souvent souligné à propos de David. Et effectivement, le serment du jeu de paume est stupéfiant pour ça, parce que ces députés, qui sont tous des athlètes extraordinaires dont on envie la musculature et l'ossature, et dont il peint jusqu'au sexe, alors que tout ça va effectivement être rhabillé. Ça fait écho à un autre tableau qu'a fait scandale, qui est les Sabines, où il y a quand même ces deux... Gaillard, ces deux combattants qui se font face, alors ils ont un bouclier et un casque, mais ils sont intégralement nus, à part des sandales. Ce que personne n'a trop saisi à l'époque, bien sûr, il y a le rapport à l'antique, de s'inspirer de ces sculptures classiques, etc. Mais enfin, c'est nu à l'échelle 1, ont beaucoup choqué. Tout ça est quand même plutôt en filigrane dans l'exposition. De la même manière, les dessins, j'ai trouvé que souvent, le traitement de la lumière, notamment dans les dessins, était beaucoup plus sensible que dans les peintures. Mais il y en a finalement trop peu, c'est beaucoup des mises au carreau, donc j'ai regretté qu'on le voit pas assez. Et puis, effectivement, on veut nous montrer aussi que David est un peintre très moderne, et je trouve que plutôt que d'aller chercher certains de ses contemporains ou de ses élèves, il y a deux immenses tableaux d'Ingres, dont un qu'on a fait venir de l'autre bout de la France, alors que je ne comprends pas ce que ça fait là, si ce n'est pour éclairer que il avait des oppositions avec certains de ses élèves, mais on aurait mieux fait, à mon avis, d'aller chercher des œuvres contemporaines. Il y a par exemple la version que Magritte a donnée de Madame de Récamier, qui est un cercueil assis sur cette méridienne. Je trouve que ça aurait éclairé cette froideur de la peinture de David, je trouve, de manière excellente. Alors la peinture, je crois, est au Canada, mais le Centre Pompidou possède une sculpture qui aurait pu être là. Et puis quand on voit le portrait de Napoléon dans son cabinet de travail, ben, c'est la photographie de Gaulle ou de Pompidou, des portraits officiels des présidents de la Ve République. Ça aurait été passionnant de montrer comment finalement David, parce que c'est ça finalement sa grande force, c'est qu'il a inventé des archétypes, il a vraiment voulu frapper, c'est presque un publicitaire. Quand il fait la mort de Marat, il veut vraiment imprimer ce martyr de la Révolution, de son ami Marat, dans l'esprit du peuple, à chaud, en créant une image iconique. Et je trouve ça aurait été passionnant de montrer ce travail-là et de montrer ses échos. Et en quoi il avait été un précurseur, malheureusement, l'exposition n'est pas celle-là.
Sally Bonne, vous êtes d'accord avec ce que dit Stéphane Correr sur la froideur de David ?
Alors, froideur, moi je dirais plutôt rigueur, et une certaine forme d'abstraction. C'est-à-dire qu'il y a quand même, on sent chez David, qui le revendique, un héritage qui provient de Poussin, un héritage aussi qui provient du Caravage, et lui, il va réduire et épurer, on le voit dans les fonds, alors même ceux qui sont inachevé, c'est-à-dire le portrait dont parlait Stéphane Coréard, ou celui de Madame Récamier, ou le absolument splendide portrait de Madame Télusson sur un fond gris, comme ça, elle a une robe blanche, il y a très peu d'éléments, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est quand même la très grande expressivité de ces portraits, qui sont d'un réalisme assez étonnant. Donc je trouve pas qu'on est dans une forme de froideur, mais plutôt dans une espèce de réduction qui a quand même pour projet et pour vocation de montrer une forme d'expressivité du visage dans les portraits qui sont absolument magnifiques et des corps aussi, donc ces corps qui sont majestueusement déployés, alors dans les tableaux du début, les tableaux dits de la période romaine, qui en plus s'appuient sur une mythologie romaine, sur des vêtements romains, etc. Et jusqu'au dernier tableau, notamment aux Sabines, où on voit ces corps. Alors effectivement, ils sont nus, comme l'a souligné Stéphane. Il y a quelque chose d'assez fascinant dans ce tableau des Sabines, qui est aussi assez monumental, avec cette femme, les bras et jambes écartés, qui tient entre ces deux, de toute sa force les camps opposés. Alors évidemment, on a fait une lecture politique, à la fois historique et politique, de cette représentation. Donc c'est à la fois les deux camps opposés de l'histoire et puis les deux camps opposés de la terreur, d'une certaine manière, qu'elle vient réconcilier. Mais c'est aussi une fabuleuse mise en mouvement des corps dans une espèce de chorégraphie comme ça entre des obliques. Hein. Il y a tous les bras sont écartés, toutes les jambes sont écartées, une espèce d'entrecroisement comme ça de tous les corps qui est vraiment une certes il y a cette espèce de rigueur et d'abstraction et d'épure, et en même temps on a une espèce de mise en mouvement des corps dans une forme d'expressivité que j'ai trouvé assez fascinante.
Jacques-Louis David, c'est au musée du Louvre jusqu'au 26 janvier, commissaire d'exposition Sébastien Allard comme Fabre, assisté d'Aude Gobet, et le catalogue est sorti aux éditions Azan. Une plongée dans le Paris artistique de la première moitié du XXe siècle sur les pas de l'étonnante Berthe Veil. C'est ce que propose cette nouvelle exposition au musée de l'Orangerie. Place aux jeunes, clamait cette femme qui ouvrit sa première galerie à Paris en 1901. À l'époque, elle avait déjà vendu 3 œuvres d'un tout jeune artiste, Picasso. Un an plus tard, elle expose Matisse. Elle poussera les artistes cubistes, les fauves. Raoul Dufy l'appelait la petite mère Veil. Féministe et dotée d'un gros caractère apparemment, elle défendra les artistes femmes, comme Suzanne Valadon. Juive, elle dut se cacher pendant l'opposition et elle en est sortie absolument ruinée. À sa mort en 1951, elle est tombée dans l'oubli. Cette exposition est donc une forme de réparation pour cette figure importante tout de même de l'art moderne. On commence avec un avis rapide, Sally Bonne.
Ben c'est une figure singulière du début du XXe siècle qui méritait sans aucun doute une exposition pour lui rendre hommage, tant elle a participé par ses choix à l'art en train de se faire avec un éclectisme étonnant dont rencontre l'exposition. Et cet éclectisme, il démontre une joie, une vitalité, une pugnacité et une énergie que les difficultés politiques, sociales, notamment antisémitisme et misogynie, et financières, n'emportent pas. Qui parfois déroutent, mais ce sont quand même des œuvres majeures, d'autres oubliées, que l'on découvre avec intérêt.
Stéphane Correa.
Oui, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il y a eu un très important travail de recherche sur ses activités, sur les archives de la galerie et sur la biographie de Berthe Veil, qui effectivement permet de rendre compte d'une manière un peu renouvelée de l'effervescence artistique qui a régné à Paris au cours de la première moitié du XXe siècle, hein, qu'elle couvre finalement, parce qu'elle ouvre sa première boutique en 1897 à Montmartre et qu'elle ferme en 1939, évidemment, comme on peut s'en douter. C'est donc la réhabilitation d'une figure qui était jusqu'alors floue dans l'histoire de l'art, un nom qu'on connaissait mais sans forcément y coller une biographie et une activité. C'est une pionnière qui s'est battue en fait contre vents et marées pour imposer sa vision de la peinture. Il y a une phrase qui la résume, hein, qui sort de son autobiographie publiée en 1933, qui dit « Cette vie, je me la suis faite ».
Et cette biographie, il faut quand même le signaler, s'intitule « Pan dans l'œil ». Je pense que quelqu'un qui écrit ça en 33 peut pas être complètement mauvais.
Titre exceptionnel.
C'est génial.
Ouais, absolument.
Alors, Sally Bonne, qu'est-ce qu'on voit dans cette expo? On a des œuvres des artistes qu'elle a mis
alors,
en avant et qu'elle a vendues.
On a des œuvres des artistes. Bon, il se trouve qu'il faut quand même signaler et souligner la très grande difficulté qu'elle a eue tout au long de sa vie. Elle vient d'une famille très très modeste, donc elle ne bénéficiait pas, comme ses collègues masculins, d'un peu d'apport, qui fait qu'elle a constamment été dans une difficulté qui fait que en fait, elle n'a pas constitué une collection. Elle a découvert des artistes, elle les a mis en vente, et les tableaux ont été ensuite vendus. Donc en fait, ce qu'on voit dans l'exposition, c'est l'ensemble des artistes, parfois des tableaux, mais pas forcément de ceux qu'elle a récupérés et vendus, des artistes qui sont passés par sa galerie. Et ce qu'on voit, c'est que dès son installation en 1901 rue Victor Massé, elle commence à découvrir, vous l'avez signalé Marie, Picasso par exemple, mais aussi Matisse. La liste est absolument étourdissante des artistes dont elle a participé à la reconnaissance. Et on peut être un peu surpris quand on parcourt l'exposition par justement ce que j'évoquais tout à l'heure, une forme d'éclectisme. Hein. Il y a des cubistes, il y a des fauvistes, on finit par l'abstraction création. Enfin, voilà, on a une espèce de Raoul Dufy, Marquet, Glaise. Léger, et des peintres qu'on connaît moins, voire qu'on connaît pas. En tout cas, ça a été mon cas, et j'ai fait des très belles découvertes, d'ailleurs. Et donc, cet éclectisme, il est intéressant aussi, parce qu'il est le signe, à la fois de son intérêt, de son énergie, et de sa vitalité, et de... Quand elle dit place aux jeunes, c'est elle a vraiment cette volonté de montrer l'art en train de se faire. Donc, on est avec cette exposition et la figure de cette galeriste dans un moment quand même d'une elle est dans une pure actualité. Mais cette pure actualité, il faut aussi le signaler, elle est foncièrement liée aux difficultés qu'elle a rencontrées. C'est-à-dire que la plupart des artistes qui passaient par sa galerie, qu'elle découvrait, en fait, puisqu'elle n'arrivait pas à les suivre, elle ne pouvait pas leur donner d'argent, etc., eux, ils allaient dans d'autres galeries, et puis finalement, ils disparaissaient. Donc, elle a été obligée de suivre un mouvement permanent parce que les artistes, ils changeaient de galerie. Et donc, on ouvre l'exposition avec la figure de Picasso. Ça, c'est intéressant quand même, parce que on ouvre avec Picasso et la Chambre Bleue, parce que elle découvre Picasso, elle peint ses trois premiers tableaux, dont le Moulin de la Galette. Et en fait, si on prête attention, il ouvre et d'une certaine manière il ferme l'expo. Et il y a quelque chose d'un peu pas tragique, mais d'assez sensible, c'est que il ferme l'exposition par une lettre que Berthe Weil lui écrit, qu'on voit dans une vitrine, où elle lui dit dans quelques jours on doit m'expulser, c'est en 1939, faute de paiement de loyer, etc. Et elle lui demande de lui prêter des dessins qu'elle pourrait vendre pour continuer à exister. Donc il y a quelque chose d'assez, quand même d'un peu tragique dans cette espèce de mouvement comme ça, de boucle, et dans des difficultés qui ont été les siennes, mais quand même d'un œil, ou en tout cas d'une volonté de regarder et de transmettre l'art vivant.
Alors sur cet œil, Stéphane Correa.
Oui, alors malheureusement, l'exposition ne nous dit pas si Picasso a répondu favorablement à sa requête. C'est effectivement une figure qui était mal connue, mais qui est digne d'un soap ou d'une telenovela, parce que ce qui est quand même rare, que ce soit des galeristes qui soient les héros de ce genre de feuilleton, parce que c'est une galeriste effectivement femme et juive qui doit combattre toute sa vie effectivement pour s'imposer avec un certain flair et surtout une grosse dose de courage. Son flair effectivement est réel, Sally l'a rappelé, elle est la première à exposer Picasso et Matisse, mais il est aussi généreux parce qu'elle en a quand même exposé 300. Alors ils ne sont pas tous présents dans l'exposition, loin de là. Elle est condamnée à la découverte effectivement par son manque de moyens. Il y a beaucoup effectivement de second couteau dans l'exposition. Néanmoins, moi ce qui m'a beaucoup intéressé, ce qui justement fait peut-être le ressort un petit peu telenovela de l'affaire, c'est que ses mérites finalement viennent de ses faiblesses. Elle transforme ses faiblesses en force. Par exemple, femme, on le voit, par exemple, c'est vrai que dans la dernière salle, il y a toutes ces caricatures de personnalités de l'époque artistique. Elle est la seule femme et elle est la seule à ne pas être seule sur son dessin, mais à être entourée de plein d'artistes hommes. Et elle porte une attention particulière à l'art des femmes, ce qui est quand même assez particulier, rare à l'époque, dont deux notamment sont excellemment représentées dans l'exposition. Suzanne Valadon, qui maintenant est bien reconnue avec les expositions récentes, qui a notamment deux tableaux sublimes, dont le nu à la couverture rayée qui appartient au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Émilie Charmy, qui est aussi une personnalité qui est en train de devenir, vraiment de s'affirmer, d'affirmer sa singularité. Il y a un autoportrait velouté de 1906-1907 qui est à la fois puissant et d'une grande délicatesse. Puis il y en a d'autres qui sont moins connus et malheureusement, et ça c'est un petit peu peut-être une faiblesse de l'exposition, c'est que pour montrer l'éclectisme, on a multiplié le nombre d'artistes, mais du coup, il y a entre une et cinq œuvres par artiste, ce qui fait que pour Picasso, Matisse, c'est très bien au contraire de leur donner peut-être moins de place que dans l'histoire officielle, mais pour des figures moins connues, ça permet pas vraiment de saisir toute la personnalité. Par exemple, il y a une des premières artistes afro-descendantes américaines, Metavo Warrick, qui est venue à Paris étudier chez Rodin. Il y a une sculpture très belle, mais c'est une petite sculpture. Hermine David, qu'on connaît comme la compagne de Pasquine, qui est ici représentée par une éblouissante suite de quatre gravures. Pour moi, ça a été une découverte totale. Je connaissais son nom comme modèle, mais je ne pensais pas que c'était une artiste aussi intéressante. Juive, Berthe Weil accompagne aussi, avec peut-être plus d'ouverture que les autres marchands de son époque, le cosmopolitisme de l'école de Paris. Parce que si on prend que les Français de souche dans l'école de Paris, il n'y a personne, il y a Dufy et Braque. Tous les autres, c'est des étrangers. Et certes, ils ont été bien accueillis à Paris, mais elle les a encore plus accueillis avec encore plus d'ouverture. Et là, on voit effectivement des peintres, par exemple, comme Archipenko, un Ukrainien qui est venu à Paris, qui est resté peut-être 10 ans en France, mais avec très peu de succès. Ben, là, elle le montre et il y a une très belle œuvre de lui. Diego Rivera aussi, le Mexicain, qui est ici représenté par une très étonnante et très réussie Tour Eiffel de 1914. Donc effectivement, elle perd les artistes tôt, elle fait le pari de la jeunesse. Il y en a certains, effectivement, je voudrais parler aussi d'un très beau portrait d'Émilie Charmy par Pierre Girieux, sur fond orange, lumineux, magnifique. Il y a un Paul-Élie Gernès, qui est un tout petit artiste, mais il y a une très belle et très subtile Nature morte de 1921 qui appartient au musée de Strasbourg. Et effectivement, ces lacunes, par exemple le fait que beaucoup de ses œuvres, c'est indiqué très bien sur les cartels, parfois on ne sait pas si elles sont passées par sa galerie, parfois il y a des doutes, parfois c'est pas celle-là, mais c'est d'autres, finalement, ça crée quelque chose d'extrêmement émouvant, je trouve, dans cette quête que les commissaires ont eue d'aller à la redécouverte de cette femme qui, dont on a effacé les traces, en fait. C'est pas qu'elle ait laissé peu de traces, c'est un peu qu'on a effacé ses traces. Et je voudrais juste aussi dire que la scénographie est remarquable, l'accrochage, je trouve sublime, avec notamment des séquences comme ça. Il y a une séquence dont je me souviens d'un passage sur le cabaret, où il y a une clownesse de Toulouse-Lautrec de 1895, et puis deux Picasso dans la fin du numéro qui vient du musée de Barcelone, qui ça crée tout ça une harmonie, une dissonance de bleu et de jaune qui est absolument sublime, et à l'entrée les deux natures mortes aux oranges de Picasso et Matisse qui dialoguent aussi merveilleusement bien.
Vous citiez Émilie Charmy, elle a elle-même peint.
Elle a peint Verveille, et c'est le portrait d'ailleurs, je crois que c'est le portrait de l'affiche ou du catalogue, hein, et dans un portrait assez étonnant. De cette figure aussi qui a marqué son époque par son allure, par sa figure et par sa prégnance très forte dans l'histoire.
Et on comprend en lisant le catalogue qu'elle a pas eu la vie facile facilitée par les autres galeristes.
Non, les autres galeristes ont été assez durs avec elle, c'est des questions financières évidemment. Mais c'est vrai que être une galeriste femme juive au début du siècle a été quand même
sans fortune
a été quand même une gageure pour cette galeriste.
Il y a une magnifique lettre de Raoul Dufy, je trouve, qui résume bien la situation dans l'exposition, où Raoul Dufy écrit à Bert Veil: soutenez-nous tous, mais faites-le avec ardeur, sans mollesse, avec conviction, ou ne le faites pas du tout, et alors un autre prendra votre place, et il ne le faut pas. Allons, bon Dieu, du courage. Vous voyez bien que vous embêtez pas mal de gens déjà. Tâchez d'en embêter encore davantage et plus, si cela est possible. Trouvez un peu de galette, bon Dieu, et allez-y.
Un dernier tout petit mot, Sally, peut-être.
J'ai découvert les deux tableaux de Raoul de Matan que j'ai trouvé vraiment magnifiques, dont un sur la cour qui est une représentation de la cour d'assises avec dans un rapport de couleurs contrasté avec un vide au milieu qui représente la dimension un peu magistrale de la cour d'assises qui était une découverte et que j'ai trouvé vraiment très beau.
Berthe Veil, galeriste d'avant-garde, c'est jusqu'au 26 janvier au musée de l'Orangerie. Je vous conseille donc le catalogue qui est une coédition Musée d'Orsay Flammarion et donc la biographie signée Marianne Lemorvan chez Flammarion avec ce titre et les irrésistibles mémoires également qui sont parus chez Bartilla avec ce titre Pan dans l'œil. Merci à tous les deux, Stéphane Coréard, Sally Boone, d'être venus dans les Midis de Culture. Nous on se retrouve dans quelques instants.